Bonjour. 1er décembre. C'est le premier dimanche de l'Avent. Et finalement, tous les dimanches sont des dimanches de l'Avent. Mais pour ce dimanche, j'aimerais qu'on s'attarde un peu aux personnages qui ont préparé l'arrivée de Jésus. Alors, on pourrait parler de prophètes, Isaïe, Jérémie, Michée, Zacharie et bien d'autres. On pourrait encore parler d'Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Et de chacun, on pourrait tirer des exemples et des enseignements. Mais ce matin, j'ai choisi de méditer sur l'exemple de Marie. Son histoire nous est décrite dans l'évangile de Luc, le premier chapitre, et on va lire dans ce premier chapitre à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Je vais lire dans la version seconde. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, ô toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra... » de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce passage, on découvre une femme dont on peut apprendre pas mal de leçons. Alors, Marie est-elle un exemple pour nous? Quand nous parlons de Marie, merci. Nous pensons peut-être tout de suite à l'image que l'Église catholique nous en a donnée et aussi aux doctrines qui lui sont associées. Sainte Vierge, Mère de Dieu, Corédemptrice, etc. Je ne sais pas si vous avez visité à Florence le musée. Marie a inspiré beaucoup, beaucoup d'artistes et on voit des salles pleines de tableaux, la Madone et le Bambino. Or, le rosaire catholique nous dit « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » C'est une erreur de traduction, ça. Parce que le texte nous dit « Je te salue, Marie, à qui une grâce a été faite. » Alors, c'est pour toutes ces raisons que dans nos églises évangéliques, on est un peu timide pour parler de Marie. Et surtout pour la montrer en exemple. Mais l'évangéliste Luc nous en parle, et donc on peut bien en parler aussi ce premier dimanche de l'Avent. On va parler pas tant de ce qu'elle a fait, Marie, mais plutôt ce que Dieu a fait en elle. Mettons-nous un peu à la place de sa situation. Fiancée à Joseph, rien ne la distingue des autres jeunes filles, aucun don exceptionnel. Pourquoi est-elle choisie ? Marie était-elle de nature différente des autres ? Marie a été choisie par Dieu, objet d'une grâce unique. Mais toute grâce trouve son motif dans celui qui la dispense et non dans celui qui est choisi. Toute grâce trouve son motif en celui qui la dispense et non en celui qui est choisi. Du point de vue de Dieu, une élection, ce n'est pas une sélection. C'est une souveraine décision marquée par la gratuité de son amour. Et on pourrait se référer à Abraham, à Jacob, à David, au peuple hébreu, et puis à bien d'autres. Le choix de Dieu, c'est ce qui peut nous différencier de nos concitoyens. Jésus disait à ses disciples, « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Alors est-ce que Il nous a choisis parce qu'on était meilleurs, plus justes, plus beaux, plus forts. Il nous a choisis parce que c'est une libre décision de sa volonté. C'est l'ange Gabriel qui apparaît à Marie. Gabriel signifie « Dieu est ma force ». Quand ce même ange est venu voir Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, Zacharie a été troublé en voyant l'ange. La première chose que je remarque, c'est que Marie n'a pas été troublée en voyant l'ange. Elle a été troublée parce que l'ange lui a dit. Et pourtant, ça aurait été normal d'être troublée par l'apparition d'un ange. Vous ne l'auriez pas été, vous ? Marie était troublée par ce qu'elle entendait de la part de l'ange. Elle se demande ce qui lui arrive, ce que signifient ces paroles. Mais Dieu, il connaît son trouble, il la rassure tout de suite. « Ne crains rien », lui dit l'ange. Et la même parole sera adressée plus tard au berger effrayé. « Ne craignez rien ». Et puis si vous relisez la parole de Dieu, vous verrez que très souvent Dieu dit « Ne crains rien ». Ne crains rien, je suis avec toi. Quand Dieu s'approche des hommes et leur parle, cela peut susciter de la crainte. Que me veut-il ? Que me manque-t-il ? Suis-je indigne ? Suis-je incapable de comprendre son message, d'accomplir ce qu'il me dit ? Mais le message que Dieu veut faire passer à l'humanité, c'est justement qu'on n'en a pas besoin de le craindre, de craindre son jugement, de craindre sa colère, puisqu'il vient pour nous annoncer une bonne nouvelle, pour nous pardonner, pour nous offrir la vie éternelle. L'ange dit à Marie, « Le Seigneur est avec toi. » Devant la tâche qui l'attend, elle n'est pas seule, Dieu est avec elle. C'est ce que Dieu veut nous dire à tous ce matin. Ne crains rien, je suis avec toi. Marie, elle savait très bien que Dieu est vivant. Elle connaissait sans doute les Écritures. Elle savait qu'il pouvait aussi parler aux hommes autrement que seulement à travers les Écritures ou à travers le prêtre. Alors nous pensons peut-être que Dieu ne parle que par la Bible, ou alors au travers d'une prédication dans un culte. Mais Dieu peut s'adresser directement à chacun de nous. Croyons-nous que Dieu peut nous parler à chacun, sans distinction? Dans la Bible, et ici en particulier, Dieu a parlé à travers d'un ange. Près de 300 fois dans la Bible, il est question d'ange, au singulier ou au pluriel. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, des anges sont venus le servir. Un ange a sauvé Pierre de sa prison. Mais c'est en songe que Dieu a parlé à Jacob, à Salomon, à Joseph aussi. Dieu parle de différentes façons et nous ne devons pas exclure les façons que Dieu prend pour nous parler. Marie était ouverte à cela, elle était troublée, c'est vrai, mais elle connaissait la promesse qu'un sauveur viendrait. Alors cela l'a certainement aidée à recevoir ce message si particulier que l'ange lui a délivré. Message vraiment hors du commun. Et Marie est touchée. Elle le dira plus tard dans son cantique. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Or ce matin, je crois que Dieu veut nous parler aussi. Il désire nous dire des choses, nous dévoiler son plan. Il désire nous utiliser pour son royaume. Sommes-nous prêts, comme Marie, à recevoir sa parole? Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Marie ose poser des questions. Il y a un dialogue qui s'installe entre Marie et l'ange. L'ange, voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Marie s'étonne là. Elle pose une question. Comment cela se produira-t-il? Je ne connais point d'homme. Et l'ange répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Dieu a tout prévu, il indique le nom qu'il faudra donner à l'enfant, Jésus. Jésus, c'était un nom assez commun en Israël, hein, Yeshua. Yeshua, Dieu et salut. C'était un nom qui n'était pas inhabituel, et c'est pourquoi les gens plus tard ont ajouté une précision, Jésus de Nazareth. Et dans cette annonce de l'enfant qui naîtra, Dieu annonce déjà ce qu'il fera, ce qu'il sera. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. La promesse s'accomplit. Une chance sur combien? Je n'ai pas trop pas eu le souvenir là. L'arrivée du Messie, rejeton de David selon la postérité humaine, rejeton de Dieu selon la postérité divine. L'unicité de Jésus est déjà annoncée. Jésus, vrai homme, et Jésus, vrai Dieu, en même temps. Fils de l'homme et fils de Dieu. Il règnera et son règne n'aura jamais de fin. On voit que dans ce passage, Marie écoute tout cela, essaye de comprendre, mais elle ne comprend pas tout, elle a des questions. Et l'ange répond. La communication continue entre Marie et Dieu à travers l'ange. Dieu ne demande pas à Marie une obéissance aveugle, sans rien comprendre, mais une obéissance réfléchie, issue d'une communication entre Dieu, entre lui et elle. Et je crois que c'est ça la foi, ce dialogue entre l'homme et Dieu. un dialogue qui s'intensifie au fil de l'échange. Dieu nous permet de poser des questions, parce que c'est un Dieu de relation, un Dieu de communion, un Dieu de confiance. Notre foi n'est pas aveugle, sans questionnement. Ce n'est pas la foi qu'on appelle celle du charbonnier, bien que les charbonniers sont des gens respectables. Dieu nous a fait des êtres pensants, des êtres de réflexion. Et comme il ne s'est pas offusqué des questions de Marie, il est prêt à entendre les nôtres et à y répondre. Marie n'a pas été la seule à poser des questions dans la Bible. Souvenez-vous de Job, une trentaine de chapitres de questions. Et à la fin, Dieu dit aux amis de Job, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il n'y a pas que lui qui a posé des questions. Relisez, Abraham, David, plein de questions à Dieu. Vivre la foi, c'est être en communication avec Dieu. Dieu nous permet nos questions, il nous permet de réfléchir à sa parole. La foi, ce n'est pas quelque chose d'immobile, de figé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un mouvement, une relation, une communication, un échange. C'est une vie à deux, Dieu et moi. Une relation qui évolue comme une relation humaine évolue, au risque de mourir sinon. Vous relirez un peu dans la Bible les hommes qui ont communiqué avec Dieu comme ça. Moïse, Abraham, Jacob, Job, David et bien d'autres. Au point que pour quelques-uns, Dieu les a nommés ses amis. Ils ont communiqué et ils ont ainsi pu apprendre qui est Dieu et comprendre son plan. Or, c'est bien de parler à Dieu quand tout va bien, de le remercier, lui demander éventuellement ce qu'il attend de nous. Mais quand tout va mal, quand on ne comprend rien, lui dire « Pourquoi, mon Dieu ?» Lui dire « Je ne comprends pas, éclaire-moi. » Et la foi, ce n'est pas un monologue, ni de nous, quand je veux dire à Dieu ce qu'il doit faire, ni de Dieu quand je n'ose pas parler avec lui, que je n'ose pas le questionner. Jésus dira à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Des amis se parlent, des amis se confient l'un à l'autre. Marie a compris cela. Elle parle à l'ange, elle dit ce qu'elle ne comprend pas. L'ange ne lui reproche rien. Il répond, il explique. Et Marie comprend un peu plus, même s'il reste des éléments de mystère dans cette naissance. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et on voit que Marie est rassurée. Elle a confiance. Elle sait que ce que Dieu fait est bien fait. Elle dit oui à Dieu. C'est ça la qualité de Marie. Elle n'a rien de particulier, ni socialement, ni religieusement. Elle reconnaît ses limites. Elle est humble. On se souvient dans son cantique, Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Rien de particulier, mais elle écoute, elle réfléchit, elle parle avec Dieu. Elle dit oui à son plan. Dieu n'avait pas besoin d'une femme particulière, seulement d'une femme qui était prête à l'écouter et à entrer dans son plan. Dieu ne cherche pas des personnes particulières, juste des personnes comme Marie, prête à écouter et à lui dire oui. Le oui de Marie n'est pas grand-chose, mais c'est le début de grandes choses. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Le meilleur pour nous, c'est de dire oui au plan de Dieu, avec tout ce qu'il comporte. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est la foi confiante exprimée par Marie. Elle se soumet à la parole, contrairement à Zacharie qui est resté incrédule. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et ce qui me surprend le plus, c'est que Marie ne pose pas de questions concernant son sort à elle. En effet, si vous vous souvenez de la loi que Moïse a donnée, elle allait être enceinte, elle était fiancée, et pas enceinte de son fiancé. Et la loi était claire, elle devait être lapidée. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous la lapiderez et ils mourront. Sommes-nous prêts, comme Marie, à nous soumettre de façon inconditionnelle au plan de Dieu ? Cette naissance virginale, le miracle de cette naissance, s'impose à notre foi aussi. Notre foi repose sur une intervention historique de Dieu dans notre monde. Et nous croyons simplement parce que Dieu nous l'enseigne dans sa parole avec clarté, que Jésus, notre Sauveur et Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Or l'homme, je crois que la femme c'est pareil, en général veut toujours comprendre avant de croire. Et on a l'exemple de Thomas. Il voulait d'abord voir et comprendre ensuite. Et un chrétien dont Marie est l'image doit d'abord croire et ensuite il comprend. La foi précède l'intelligence et la compréhension. Il faut croire pour comprendre. Il faut croire pour comprendre. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et c'est ainsi que la foi nous ouvre aux réalités invisibles. Ces réalités qui ne sont pas moins réelles que celles que l'on voit. Ces réalités qui impliquent le ciel, Dieu, les anges, le Saint-Esprit, Satan, l'enfer. Si aujourd'hui une jeune femme déclare à son fiancé qu'elle est enceinte du Saint-Esprit, son fiancé lui dirait qu'elle ment, qu'elle l'a trompée, ou alors qu'elle est folle. Devenir enceinte tout en étant vierge, bien ça aussi en probabilité. Oui. Donner naissance à un enfant sans connaître d'homme, elle a fait un enfant toute seule. Cela semble impossible. Oui, vraiment impossible aux hommes et à leur compréhension. C'est pour ça que l'ange Gabriel disait à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. » Les plans d'amour de Dieu s'accomplissent quand des hommes et des femmes simples, comme Marie, agissent selon la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle était prête à se laisser employer par Dieu. Remettons-nous, nous aussi, à la parole de Dieu, comme Marie. Elle se confiait entièrement à Dieu. Elle se soumettait à sa parole. Elle savait que la parole de Dieu est certaine et elle savait aussi qu'on pouvait se confier en lui. Dieu pose son regard d'amour sur chacun d'entre nous, il nous parle et il attend de nous une réponse, la même que Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors pour finir, nous sommes choisis par Dieu. Dieu nous parle. Nous avons droit à des questions. Mais à la fin, nous pouvons et nous devons lui faire confiance. Je pense que c'est le message que Marie nous fait passer à travers la Bible.
Merci